Jérôme Lejeune.
C'est bien ça.
Nous allons découvrir à frais nouveaux, j'oserais dire, avec vous, la vie que vous qualifiez vous-même de romanesque, de ce personnage, de ce professeur Lejeune, extraordinaire personnage, et puis découvreur, scientifique remarquable, humaniste, bref, un homme dont on parle trop peu ou trop mal, souvent. Nous allons le découvrir avec vous, et puis nous parlerons évidemment avec vous de la révision de la loi bioéthique. Alors, ce Jérôme Lejeune, dont on dit qu'il est le découvreur de la trisomie 21, comment vous expliquez, vous, Nicolas Sévillac, que finalement il soit si peu aimé, apprécié de la communauté scientifique, alors qu'on lui doit beaucoup comme généticien?
On lui doit énormément, puisqu'il est réputé, et il a été réputé, notamment de son vivant, comme le plus grand généticien français, et peut-être même le plus grand généticien du monde. Il est vraiment le pionnier de la génétique moderne, mais aujourd'hui, il est malheureusement pas reconnu parce que, et il a été abandonné à un moment de sa vie par la communauté scientifique, parce que ses prises de position et ses convictions sur le respect de la vie ont gêné, en fait, notre société moderne, qui avait décidé à la fin du XXe siècle de rendre possible et légal l'avortement. Et il se sentait lui particulièrement concerné parce qu'il avait fait cette découverte extraordinaire en 1959 sur l'origine de la trisomie 21. Et cette découverte, malheureusement, s'est retournée contre ses patients, les patients qu'il voulait soigner, et contre lui, contre son auteur lui-même. Parce que la médecine s'est servie de cette découverte pour pouvoir diagnostiquer, identifier plus tôt avant la naissance les fœtus, les enfants porteurs de cette anomalie génétique avant la naissance, non pas pour pouvoir les soigner et les guérir, mais pour pouvoir les éliminer par voie d'avortement, vous avez compris.
Donc lorsqu'il décède en 1994, on peut dire que ce grand généticien, au fond, n'est pas reconnu pour ce qu'il a apporté, ou en tout cas ce qu'il a apporté en termes de découverte est dévoyé. Et il le vit pas bien à ce moment-là. Enfin, il décède dans ce contexte-là.
Alors lui, la fin de sa vie, voilà, était tragique parce que, d'abord, au début de sa vie, enfin au début de sa vie de grand médecin et de grand généticien, il était évidemment reconnu. Il a été beaucoup invité dans des congrès internationaux scientifiques. Il a été nommé 2 fois pour le prix Nobel de médecine, quand même, ce qui est incroyable. Et en fait, à partir du moment où il a fait ce discours fondateur sur la dignité de l'embryon humain, toutes les portes de la communauté scientifique se sont fermées, mais vraiment du jour au lendemain. Et même à Paris, où il avait une consultation pour ses enfants trisomiques, une partie de son équipe l'a abandonné parce qu'on a clairement dit à ses collaborateurs que s'il restait avec le docteur Lejeune, il n'aurait plus jamais aucune promotion, plus aucune promotion dans leur carrière médicale. Donc vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, il allait contre le cours de l'histoire, finalement, le docteur Jérôme Lejeune et le professeur Jérôme Lejeune, mais en rappelant un principe simple, c'est qu'en fait, la vie doit être respectée de sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Et en fait, que la vie soit là dès le moment de la fécondation, ça n'est pas... il explique que ça n'était pas sa conviction ou son opinion, ça n'était pas une conviction ou une opinion, c'était la réalité, c'est-à-dire que la vie est là dès la fécondation, dès le moment où fusionne le patrimoine du papa et de la maman, et à partir du moment où cette vie est là, il faut la protéger.
Et qui est-il comme homme, Jérôme Lejeune? Vous avez, vous, parlé, j'ai lu dans une interview, d'une vie romanesque. Bon, on en comprend un petit peu là les éléments, hein, parce qu'en effet, sa vie de scientifique est complexe, voire romanesque. Par ailleurs, qui est-il?
Alors, c'est un père de famille nombreuse. Déjà, il a 5 enfants. Il a épousé une femme danoise. Alors, tout ça est romanesque en réalité, parce qu'il a rencontré sa femme à la bibliothèque Sainte-Geneviève quand il était étudiant à Paris. Et donc, il s'est marié au Danemark. Il a eu 5 enfants au Danemark. Et puis, par ailleurs, c'était aussi... un homme, alors évidemment un grand scientifique, mais il était très manuel, il aimait beaucoup la nature, il aimait se servir de ses mains pour travailler le bois, c'était un grand bricoleur. Il fabriquait par exemple des machines sophistiquées. C'était un inventeur aussi. C'est-à-dire, par exemple, dans sa maison de campagne, il avait élaboré une machine pour désherber avec un vieux fer à repasser et qu'il avait branché qu'il avait relié un manche à balai. Il avait créé cette espèce de machine un peu folle qui lui permettait de soigner son jardin.
De désherber sans pesticides.
Exactement, de désherber sans pesticides et sans abîmer la nature. Vous voyez. Donc en fait, il protégeait la nature humaine, mais il avait aussi un grand respect pour la nature tout court. C'est-à-dire que c'était pour lui, en fait, à la limite, peut-être c'était le premier apôtre, on va dire, ou défenseur de l'écologie intégrale qui est défendu aujourd'hui.
Un amoureux des lettres aussi.
Et c'était aussi un amoureux des lettres. Il a écrit d'ailleurs quelques poèmes. Jérôme Lejeune était un amoureux des lettres. Il avait une grande élocution. Il avait quand même la réputation d'être un bel orateur et dans le nombre d'assemblées politiques et aussi associatives, il a beaucoup défendu la personne trisomique. Il en a parlé comme une personne très belle, avec sa singularité, mais aussi avec les qualités propres qu'on lui reconnaît. Et il en parlait vraiment avec beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de lettres et de poésie.
Parlons un peu de l'homme de foi, parce que c'est quand même ce qui aussi traverse totalement sa vie, l'imprègne, la pétrit même, on pourrait dire, la
oui.
foi.
Oui, bien sûr. En fait,
foi et raison, au fond, lui, il a réconcilié
totalement.
Il a réconcilié
la foi et la raison, et
ouais,
en fait,
c'est de logique.
C'est ce qui est à l'origine de cette très très belle amitié avec le saint pape Jean-Paul II, qu'on honore particulièrement ici à Lourdes. Et en réalité, parce que il éclairait les choix scientifiques de la communauté scientifique grâce à des arguments de la raison. Mais qui ne contrariait pas aussi la foi. Et donc, comme la fin du XXe siècle a vu beaucoup de progrès scientifiques qui ont autorisé de nouvelles pratiques médicales, le pape Jean-Paul II aimait interroger Jérôme Lejeune pour savoir si ces pratiques médicales qui étaient découvertes et qui étaient autorisées par la loi pouvaient être acceptées par l'Église catholique et était compatible avec l'enseignement de l'Église catholique sur le respect de la vie. Et donc c'est ce qui a permis aussi sans doute à Saint Jean-Paul II de publier des textes assez fondateurs sur l'Évangile de la vie et qui lui a permis assez tôt en fait par exemple de condamner la nouvelle pratique médicale de la procréation médicalement assistée qui a été autorisée en 1994 mais qui était pratiquée déjà illégalement en France depuis une dizaine d'années. Et très vite, l'Église catholique s'est prononcée contre cette pratique médicale. Et sans doute, à l'époque, Jean-Paul II avait consulté Jérôme Lejeune pour savoir s'il y avait des enjeux éthiques derrière, par exemple, ces nouvelles pratiques médicales autorisées.
Alors vous êtes secrétaire général de la Fondation Jérôme Lejeune. Est-ce qu'on peut dire que cette fondation, elle porte en héritage, et elle porte dans l'actualité aujourd'hui, dans la vie telle qu'elle va, ben tout ce que le Jérôme Lejeune laisse?
Bien sûr, elle poursuit l'œuvre du professeur Lejeune assez fidèlement à travers les trois missions qu'elle mène et les objectifs qu'elle poursuit, puisque Jérôme Lejeune était un grand chercheur. Alors, la Fondation Jérôme Lejeune programme des finances de recherche sur la trisomie 21, mais aussi sur d'autres déficiences intellectuelles d'origine génétique. Et donc, en fait, elle cherche un traitement pour ses enfants et pour ses adultes qui sont porteurs d'une trisomie 21 et d'autres d'ailleurs déficiences, puisque Jérôme Lejeune n'a pas découvert seulement la trisomie 21, il a découvert d'autres syndromes qui sont beaucoup plus rares. La Fondation Jérôme Lejeune poursuit l'œuvre de soins de Jérôme Lejeune à travers sa consultation, puisque Jérôme Lejeune avait une consultation à Paris et la Fondation Jérôme Lejeune en 97 a recréé cette consultation et aujourd'hui elle compte une vingtaine de médecins. Et surtout, elle accueille 10 000 patients qui sont suivis tout au long de leur vie. Cette consultation, elle redonne évidemment de l'espoir à ses enfants et elle redonne aussi beaucoup d'espoir à leurs parents.
Oui.
Et enfin, la Fondation Jérôme Lejeune défend la vie, puisque Jérôme Lejeune était un avocat de la vie et il était l'avocat de ses petits patients. Et donc, nous le faisons voilà, en interpellant le législateur sur les transgressions qu'elle dénonce éventuellement dans des textes et des projets de loi, mais elle le fait aussi en éditant des petits manuels à destination des jeunes pour expliquer comment se passe, par exemple, quelle est l'origine de la vie, quels sont les enjeux éthiques de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui, de la théorie du genre, de l'euthanasie. Enfin voilà, nous allons sur tous ces sujets en fait qui concernent le respect de la vie et qui est menacé aujourd'hui, au début, mais aussi à la fin.
On parlera dans la deuxième partie de cette émission de la révision de la loi bioéthique, justement, qui porte tous ces enjeux dont vous venez de parler. Mais avant de marquer une pause dans cette émission, les enfants. Parlons des enfants. Ils sont au cœur de la vie de Jérôme Lejeune.
Bien sûr.
C'est très humain, toute cette histoire.
Très incarnée.
Ce n'est pas qu'une histoire de scientifique, de découvreur.
C'est une histoire très incarnée. Et en fait, tous les parents, et il en existe encore aujourd'hui, qui ont rencontré avec leurs enfants trisomiques le professeur Jérôme Lejeune, disaient qu'il y avait un contact absolument incroyable qui se faisait très vite entre l'enfant et le professeur Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune ne considérait pas ses enfants comme de simples patients, mais comme ses propres enfants, et d'abord comme des personnes avec toute leur humanité. Et donc avant de commencer une consultation, d'abord il se passait de longues minutes où le professeur Jérôme Lejeune regardait droit dans les yeux ses enfants, leur parlait et très vite les comprenait.
Est-ce que ça n'est pas paradoxal que dans notre actualité, on ait vu des personnes porteurs de la trisomie 21 sous les feux de l'actualité et devenir pas des stars, mais enfin, en tout cas, des personnalités reconnues à travers le cinéma. Bon.
Bien sûr.
Et puis, d'un autre côté, des lois qui semblent
c'est vrai.
Complètement aller à l'encontre de leur reconnaissance.
C'est assez paradoxal, vous avez raison. En fait, je pense que la société française cherche à se donner peut-être un petit peu bonne conscience en offrant des tréteaux ou des tribunes à ces personnes. Et en même temps, peut-être ne serait pas capable de les accueillir au moment de la naissance. Et donc, en fait, depuis qu'elles n'ont jamais été aussi absentes de leur berceau, finalement, elles sont aussi beaucoup présentes sur les tréteaux. Et ce qui signifie d'abord quand même que quand elles sont là, on a envie quand même d'en prendre soin, mais d'un autre côté, on a toujours cette tentation de vouloir se débarrasser en fait de ces êtres que la société nous présente comme des êtres imparfaits, mais qui finalement nous apportent beaucoup. Et on voit bien quand on est au contact de ces enfants que nous sommes toujours touchés. Et j'ai passé une soirée auprès de deux enfants trisomiques et ces enfants nous touchent, c'est évident. Mmh. Des enfants, on en croit toute la journée, mais vous en ferez peut-être vous aussi l'expérience, mais quand vous rencontrez un enfant ou une personne trisomique, vous oubliez jamais cet instant en fait. Mmh. Il reste gravé.
Nous allons nous arrêter quelques instants, quelques minutes, Nicolas Sevilla. Juste après, nous reparlons avec vous qui êtes secrétaire général de la Fondation Jérôme Lejeune. En particulier, nous entrons dans ce sujet difficile, complexe même, de la révision de la loi bioéthique. À tout de suite.
À tout de suite.
Des clés pour vivre. Clés pour vivre.
Bonjour à tous. Je vous donne rendez-vous sur Radio Présence et pour une nouvelle série d'entretiens dans Des clés pour vivre sur le thème de l'Esprit Saint. Ces émissions ont été enregistrées le 4 mars 2019 dans les studios de Présence Toulouse. Je recevais au micro et pour intervenant prédicateur Alain Noël qui depuis nous a quittés. Il est décédé le 23 avril 2019. Nous avions programmé ces enregistrements sur le thème de l'Esprit Saint en vue de cette fête de la Pentecôte du 20 au 24 mai. Je vous propose d'écouter un extrait d'une des émissions avec pour intervenant Alain Noël qui depuis nous a quittés.
Et si notre cœur en ce moment-là à l'antenne ne devient pas tout brûlant comme le Seigneur nous y invite par l'action de l'Esprit Saint, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons nous laisser embrasé de l'amour de Dieu pour devenir liquide, pour devenir, pour cesser, pour tout ce qui est rigide en nous, figé, tout ce qui est solidifié comme de la lave qui n'est plus en fusion, qui se solidifie, tout ce qui est emprisonné en nous. Nous essayons d'être libérés et nous l'avons fait pendant le carême et nous le faisons encore dans ces 7 semaines qui nous préparent à Pentecôte. Mais nous essayons d'extraire de nous à froid. ce qui nous empêche de manifester l'amour de Dieu. Nous essayons d'extraire de nous à froid nos défauts, nos péchés, etc. Ils s'en iront d'eux-mêmes. Ils s'en iront d'eux-mêmes si nous nous laissons embraser par l'Esprit. Saint Paul le dit dans Galates au chapitre 5, « marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Pourquoi ? Parce que l'Esprit va nous embraser et que la chair n'aura plus le pouvoir qu'elle a sur nous, mais c'est l'Esprit qui va guider la chair en nous.
Notez bien le rendez-vous de ces émissions avec, pour intervenant, Alain Noël, que j'avais reçu le 4 mars dernier, qui depuis est décédé. C'était le 23 avril 2019. Retrouvez-le du lundi 20 mai au vendredi 24 mai, tous les jours, 11h45 sur Radio Présence. Vous pouvez aussi réécouter ces émissions en podcast sur le site de notre radio et l'intégrale de ces émissions le dimanche 26 mai à 23h.
Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Merci de passer par nos studios, Nicolas Sevilla, vous qui
merci êtes de votre invitation.
Secrétaire général de la Fondation Le Jeune.
C'est ça.
J'invite tous ceux qui nous écoutent à taper sur, par exemple, leur moteur de recherche, dans leur moteur de recherche, Jérôme Lejeune, pour redécouvrir vraiment la vie de cette personne exceptionnelle, professeur Lejeune, dont on dit communément qu'il est le découvreur de la trisomie 21, mais c'est bien plus que ça, le professeur Lejeune. C'est un humaniste, un homme de lettres, on l'a dit.
Un homme de lettres, un scientifique génial,
oui, et puis,
un savant.
Et puis au cœur de sa vie, des enfants. Des oui. enfants, en particulier ceux touchés par la trisomie 21, mais pas seulement, et pour lesquels il fera beaucoup, et il fait beaucoup encore, grâce à cette fondation qui est un peu héritière, ou même l'héritière, de toutes ces intuitions, de tous ces combats.
Et puis aussi, on peut peut-être aussi ajouter une grande figure spirituelle aujourd'hui.
Oui.
En plus, nous sommes
Il deviendra-t-il saint un jour ?
Eh bien, nous l'espérons, bien sûr. Alors, la Fondation Jérôme Lejeune ne s'occupe pas de son procès en béatification, puisque nous n'avons pas de vocation confessionnelle, bien sûr. Mais nous servons quand même l'image et la notoriété, bien sûr, de notre fondateur. Et c'est vrai que Jérôme Lejeune était une grande figure spirituelle, beaucoup aimée et admirée par le Saint-Pape Jean-Paul II. Mais aussi beaucoup d'autres catholiques qui le prient aujourd'hui et qui espèrent un jour qu'il sera béatifié et pourquoi pas canonisé. Alors son procès est ouvert à Rome. Il a passé une première phase déjà, puisque la position a été remise à cette fameuse commission de cardinaux qui examine les vertus héroïques du serviteur de Dieu. Et nous espérons que nous pourrons connaître un jour la béatification de Jérôme Lejeune. Pourquoi pas du vivant même de son épouse ? Ce serait absolument extraordinaire, puisque son épouse est toujours de ce monde et elle travaille chaque jour à la Fondation Jérôme Lejeune. À son grand âge de 92 ans, mais c'est une femme qui est en pleine forme et à qui je veux rendre hommage, parce que c'est vraiment aussi vraiment une des mamans de la Fondation.
Il existe en France une loi dite bioéthique, donc qui réglemente en quelque sorte tout ce que l'on peut ou ne peut pas faire concernant l'humain, la pâte humaine, concernant le début de la vie, la fin de la vie. Alors on parle d'euthanasie, on parle de procréation médicalement assistée, de recherche sur l'embryon. Au fond, si vous deviez expliquer assez simplement, vous, Nicolas Sevilla, les enjeux qu'il y a concernant la révision de cette loi bioéthique qui verra le jour sans doute en 2020 ou peut-être un peu avant. Bref, c'est quoi ? Quels sont les grands enjeux simplement à comprendre pour tout un chacun ?
Alors d'abord, moi je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les menaces aujourd'hui, elles sont quand même au début et à la fin de la vie, ça c'est très, et on le voit très clairement dans cette révision de la loi bioéthique, parce qu'il y a des progrès scientifiques. Nous ne sommes pas contre le progrès, mais nous sommes contre le progrès quand il atteint à la dignité de la vie humaine. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons des techniques qui nous permettent d'abord de créer des enfants en dehors du corps de leur maman, c'est le principe de la fécondation in vitro. Et il y a des progrès qui permettent à des chercheurs aujourd'hui d'utiliser l'embryon à des fins de recherche, par exemple, et à la fin de la vie humaine, de pouvoir décider de mettre fin à la vie d'homme qui serait devenu inutile parce que trop lourdement handicapé. Et donc toutes ces techniques médicales qui ont été permises par le progrès scientifique, évidemment nous nous y opposons. Alors nous nous y opposons, quand je parle de début de la vie, je parle par exemple dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Nous nous disons à la Fondation Jérôme Lejeune depuis déjà 25 ans que cette pratique est autorisée. Qu'elle nous pose problème, nous ne jugeons évidemment pas les parents qui ont recours à la fécondation in vitro, mais dans le cadre d'une fécondation in vitro, le biologiste est obligé de créer plusieurs embryons et il va procéder à une sélection embryonnaire avant d'implanter l'embryon dans le corps de la maman. Et donc quand on parle de sélection embryonnaire, en fait on parle de tri, et quand on trie des embryons, on en supprime certains. Donc en fait on les tue tout simplement, parce qu'un embryon humain c'est le petit de l'homme, c'est un tout petit bébé. Voilà, premièrement. Ensuite, cette révision de loi de bioéthique va permettre d'améliorer le dépistage prénatal, et notamment celui qui concerne la trisomie 21. Et donc ça, évidemment, nous, la Fondation Jérôme Lejeune, nous sentons particulièrement concernés, puisque nous défendons l'honneur des enfants qu'on soigne chez nous. Et cette proposition de loi de bioéthique qui sera votée l'année prochaine va proposer d'étendre le diagnostic préimplantatoire à la trisomie 21, ce qui veut dire que dans le cadre d'une fécondation in vitro, tous les embryons qui seront détectés et identifiés porteurs d'une trisomie 21 avant leur implantation dans le corps de la maman seront éliminés. C'est-à-dire qu'il y aura 100% des embryons porteurs d'une trisomie 21, donc de cette anomalie génétique qui n'est pas une pathologie mortelle, je le rappelle, seront éliminés. C'est-à-dire que sur les 20 ou 25 000 enfants qui naissent par jour par fécondation in vitro, plus aucun enfant sera porteur de cette anomalie. Nous nous disons stop là, attention, il y a un geste qui est eugénique, puisque quand on trie une population sur le critère de son génome, c'est la définition du dictionnaire, c'est de l'eugénisme. Voilà, donc ça c'est le premier grand sujet éthique sur lequel nous travaillons. Ensuite, alors on a beaucoup parlé de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on connaît aussi bien les arguments, mais effectivement, la fécondation in vitro a été inventée, créée pour des couples infertiles, donc qui est utilisée pour des raisons médicales et dans le cadre de personnes qui vivent une infertilité sociale. On ne peut pas du tout les comparer ou les assimiler à des personnes qui vivent une infertilité pathologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des personnes qui cherchent à contourner la méthode naturelle de la procréation, mais ça n'est pas possible. Ce ne sont pas des femmes qui sont stériles. Et par ailleurs, en plus, ces techniques devaient de toute façon garantir une filiation cohérente pour les enfants. Et à partir du moment où ce sont des femmes seules à qui on donne des enfants, ça veut dire que ces enfants naissent sans papa, et évidemment ça pose un problème sur le plan de la filiation. Voilà.
Donc les deux premiers sujets sur lesquels vous dites attention, vigilance, même alarme, c'est élargissement du diagnostic prénatal.
Oui, voilà.
Et à la détection, notamment de la trisomie, donc élimination en quelque sorte.
Oui, oui.
Et deuxième point, c'est la procréation médicalement assistée.
Exactement.
Il y a également la question de la recherche sur les embryons.
Oui, parce que alors la recherche sur l'embryon au départ en 94 a été formellement interdite. Donc il y avait un principe d'interdiction ferme qui avait été posé, tout simplement parce que quand on a créé cette loi de bioéthique, en fait c'était pour poser en même temps des principes pour respecter la vie humaine. Et donc on a bien vu que les pratiques médicales qui ont été autorisées dès le départ ont violé ces principes. C'est le cas dans la destruction des embryons humains au moment du tri embryonnaire dans une fécondation in vitro, mais c'est vrai aussi sur la possibilité qui pouvait être faite de l'utilisation des embryons qui n'étaient pas implantés. Et donc à partir du moment où la pratique de la fécondation in vitro crée des embryons surnuméraires, les chercheurs ont voulu récupérer ces embryons pour chercher, pour effectuer et accomplir des protocoles de recherche. Puisque finalement, ils ont dit, bah, attendez, puisque ces embryons, vous allez les congeler, que certains vont être détruits, autant, à la limite, autant nous les donner. Et donc, ce principe de recherche sur l'embryon était absolument interdit en 1994, et on a créé des premières dérogations en 2004, en disant, les chercheurs ont fait tellement de pression auprès du gouvernement et des parlementaires, en disant, écoutez, on voudrait quand même essayer de chercher, et puis s'il n'y a pas de progrès, et ben dans 5 ans, on reviendra à un principe d'interdiction ferme. Alors, on a créé des dérogations en 2004, et puis 5 ans après, c'était d'ailleurs un peu plus tard, puisque la deuxième révision a eu lieu en 2011, mais en gros, 5 ans après, on avait créé ce moratoire de 5 ans, mais 5 ans après, il n'y avait pas de progrès thérapeutique majeur constaté. Et donc, le législateur a dit, bon, ben, on va revenir à un principe d'interdiction, et les chercheurs ont dit, non, mais attendez, vous rigolez, au contraire, là, ça commence à devenir intéressant, mais on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu assez de temps. Donc, en fait, le législateur a supprimé le moratoire, et en fait, on a pérennisé ces dérogations. Et puis, en 2013, entre-temps, on avait changé de gouvernement et on est passé d'un principe d'interdiction carrément à un principe d'autorisation sous condition. Et donc aujourd'hui, en fait, la recherche sur l'embryon est très libéralisée. Les autorisations sont données par une agence de biomédecine qui impose des critères assez stricts pour permettre aux chercheurs d'accomplir leur protocole. Sauf que les chercheurs ne respectent pas toujours les conditions strictes posées par la loi. Et nous, Fondation Jérôme Lejeune, nous portons ces autorisations de recherche devant des tribunaux et souvent ils sont annulés. Et donc en fait, pour permettre de faire de supprimer cette insécurité juridique dans laquelle se trouvent les chercheurs en raison de nos recours, là le législateur risque de proposer de supprimer tout simplement les critères stricts qui permettent aujourd'hui de faire cette recherche sur l'embryon. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, il faut que les chercheurs puissent prouver qu'il n'y a pas d'alternative qu'une recherche sur cet embryon, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres. Et nous disons qu'il y en a d'autres d'ailleurs, puisqu'il y a notamment la recherche sur les cellules iPS, qui sont des cellules de peau, des cellules souches adultes, et donc celles-là qui ne posent pas problème. Et puis, il faut aussi pouvoir prouver qu'il y a une pertinence médicale, une fin thérapeutique possible à cette recherche sur l'embryon. Et ben, le législateur va supprimer ces critères-là pour pouvoir permettre aux chercheurs d'effectuer leur recherche dans des conditions finalement très très libres.
Est-ce que vous pensez, Nicolas Sevilla, qu'il est possible que la France, par exemple, soit un peu ou beaucoup plus restrictive sur ces questions, comme un îlot, alors que dans d'autres pays à travers le monde, on fait tout autre chose? On est au contraire dans du libéralisme sur ces sujets.
Absolument, oui, c'est vrai. Mais justement, ce serait l'honneur de la France de pouvoir dire, bah, écoutez, voilà, non, au pays des droits de l'homme et au pays où nous avons voilà, de la considération pour l'être humain, il est normal de le protéger dès le commencement de sa vie. Nous sommes un grand pays législateur. Nous sommes le pays du code civil, du code de la santé publique, etc. Il faut savoir poser des principes qui respectent la dignité d'un être humain. Et quand on recherche sur l'embryon, évidemment, on le détruit. Et donc, détruire un embryon humain, ça n'est pas acceptable. Et c'est contraire à sa dignité.
Mais vous entendez aussi l'argument de ces scientifiques qui disent, au fond, mais quel retard nous prenons, quelle catastrophe pour un pays comme la France s'il n'a pas la possibilité de donner un peu tous ces champs d'investigation à ces scientifiques de façon plus libre.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des alternatives et donc nous devons poser des garde-fous parce qu'on ne peut pas transiger là-dessus, en fait. Sinon, tout sera possible demain. Aujourd'hui, vous savez, les chercheurs demandent de pouvoir créer carrément des embryons pour la recherche. Aujourd'hui, on crée des embryons pour les implanter dans le corps d'une maman et puis ceux qui ne sont pas utilisés ou qui sont mal notés, ils peuvent être livrés à la recherche. Aujourd'hui, les chercheurs veulent créer des embryons pour avoir des bons modèles, puisqu'ils considèrent que les modèles qu'ils récupèrent ne sont pas des bons modèles. Et par ailleurs, pour analyser leur évolution après 6 jours, 10 jours, 14 jours, et puis à quel moment on va s'arrêter.
Puisque c'est devenu une matière scientifique.
Bien sûr, un objet. À quel moment on va s'arrêter.
Puisque c'est devenu une matière scientifique.
Bien sûr, un objet.